Au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons aujourd'hui, ou plutôt nous solennisons aujourd'hui, la fête à Dieu, la fête du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église trouve ici une fête extraordinaire à solenniser parce que le sacrement de l'Eucharistie est lié intimement à la vie même de l'Église. En effet, l'Eucharistie est, comme il a été à de nombreuses reprises dit, affirmé, proclamé, l'Eucharistie est la source et le sommet de toute l'Église. Source et sommet de toute l'Église. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir exprimer, peut bien vouloir dire? Source, tout d'abord. Pourquoi on peut considérer l'Eucharistie comme source de l'Église, comme source de toute la vie de l'Église? Eh bien, selon nous, Dieu veut donner la vie. Dieu est vie lui-même et il n'a de cesse que de répandre la vie. Nous avons fêté récemment la Sainte Trinité. C'est-à-dire que nous avons fêté la vie qui est en Dieu, vie communiquée entre les trois personnes. Vie parfaite, vie qui ne peut pas, il ne peut pas y avoir plus grande, plus haute vie, plus plénière, pouvons-nous dire. Dieu veut donc partager, on peut dire, cette vie, partager cette existence. Et en premier lieu, il va y avoir la création. La création, c'est déjà Dieu qui va créer, Dieu qui va donner un être, Dieu qui va véritablement faire exister. Lui qui existe depuis toujours veut que certaines choses sortent du néant. Mais elles ne sortent pas a priori, à proprement dit, du néant, puisque du néant vient le sort. C'est donc la puissance même de Dieu, la vie qui est en Dieu, qui va faire exister les choses. Mais on sait bien qu'entre un caillou et Dieu, il n'y a pas grand-chose quand même de ressemblance. Certes, toutes deux existent, chacun à sa mesure, si l'on peut ainsi s'exprimer. Il n'empêche, Dieu va créer l'homme, et en créant l'homme, il va lui donner une vie. Non plus seulement une existence, mais une vie propre, avec une certaine autonomie. Alors, déjà l'homme va ressembler plus à Dieu. Et en plus, il le crée esprit, ce qui fait que l'homme devient à l'image même de Dieu. Il est vie, et il est vie spirituelle. Pas encore surnaturelle, mais déjà spirituelle parce qu'il a un esprit. Mais Dieu ne s'arrête pas là, vous le savez, il va donner sa grâce. Et alors, nous atteignons un deuxième degré de vie. Non plus seulement l'existence, mais véritablement une participation à la vie même de Dieu. Dieu est le Dieu de la vie. Dieu veut se donner. Et se donner toujours plus pleinement. Mais Dieu ne va pas en rester là. Il va vouloir donner non seulement sa grâce, mais se donner lui-même. Et c'est en notre Seigneur Jésus-Christ que cela se réalise. En assumant une nature humaine, il se donne. Toute sa divinité va être liée à une humanité. Et pour nous, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le but de Dieu, c'est que sa créature, l'homme en l'occurrence, soit unie intimement à lui. Unie intimement à lui. Et comment Dieu va se donner pour nous? Eh bien, il va y avoir non seulement la grâce, il va y avoir non seulement Jésus-Christ, mais entre les deux, pour que nous puissions réaliser véritablement cette unité avec Dieu, cette union avec Dieu, il va y avoir l'Eucharistie. Déjà, Dieu se donne dans l'incarnation. Il se donne à une nature humaine qu'il choisit. Il se donne également à toute l'humanité en Jésus-Christ. Mais Dieu, dans l'Eucharistie, va prolonger ce don non seulement à une humanité que Jésus-Christ a prise, mais à chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous, Dieu va se donner personnellement. Il se donne à nous et il faut recevoir ce don avec, eh bien, un cœur, un esprit, une une âme généreuse, bien préparée. La communion devient donc le moyen d'être en contact avec Dieu lui-même, de le recevoir et ainsi de le posséder, de posséder cette force et cette aide surnaturelle dont nous avons absolument besoin pour aller au ciel, pour vivre chrétiennement. Sans Eucharistie, il n'y a pas de vie chrétienne authentique possible. On ne va pas aussi loin que le bon Dieu souhaiterait pour nous. Donc il faut absolument avoir la possibilité de communier pour pouvoir véritablement tenir sur le chemin. L'Eucharistie, c'est vraiment une nourriture, et le Christ le dit, mon corps est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson. Et si le Christ insiste tant ici, c'est parce que la nourriture nous fortifie. La nourriture est vraiment ce qui va nous permettre de tenir et d'arriver à bon port, c'est-à-dire d'arriver au ciel. Sans nourriture, nous ne pouvons pas cheminer. Sans boisson, nous ne pouvons pas atteindre Dieu lui-même, qui est le but de notre vie. Dans l'Ancien Testament, il y avait, saint Thomas le reprend dans la séquence qui vient d'être chantée, il y avait déjà cette préfiguration de la manne au désert. Entre les oignons d'Égypte, que les Hébreux vont regretter au bout d'un certain temps, et puis la terre promise, la terre où coule le lait et le miel, eh bien il va y avoir une nourriture. Entre les petits biens que sont, les faux biens que sont le péché, et qu'on peut parfois regretter, à savoir les oignons d'Égypte, et puis entre le vrai bien par excellence, qui est la vision béatifique, eh bien il y a cette période de désert, à savoir cette période sur la terre, mais où Dieu s'occupe de nous et où il nous donne une nourriture pour aller jusqu'à la terre promise, c'est véritablement l'Eucharistie. Alors, essayons, eh bien, de voir combien toute la vie qui est en nous est la vie, j'allais dire, la plus haute, la plus belle. Notre vie n'est pas seulement vie matérielle. Notre âme n'est pas seulement faite pour animer un corps qui ainsi va pouvoir manger, boire, etc. Croître. Non, il faut aller plus loin. Notre vie n'est pas seulement une vie spirituelle, à savoir où l'intelligence va pouvoir déployer tous ses talents dans la recherche, dans la contemplation. Non, il faut aller encore plus loin. Il faut aller jusqu'au fait que notre âme, tout notre être, est destiné à Dieu, est destiné à contempler Dieu, à vivre de la vie de Dieu même, à vivre de la grâce, à être en union avec le Christ. Essayons toujours, mes bien chers amis, de placer notre vie à ce niveau-là. Sinon, nous ne vivons pas vraiment la vie que le Seigneur a voulu pour nous. Et alors, nous régressons. Le Seigneur ne nous a pas donné une vie pour que nous vivions au ras des pâquerettes, mais pour que nous vivions de Dieu. C'est cela la grandeur de l'homme. Comprenons bien que l'Eucharistie est véritablement la source de la vie la plus haute que l'homme veut pour chacun d'entre nous, que Dieu veut pour chacun d'entre nous. L'Eucharistie est aussi sommée. Elle est sommée parce qu'elle est l'acte le plus parfait que l'Église puisse poser. Eh bien, chers amis, c'est pour nous une grande leçon de participation à la messe. Quand l'Église célèbre ce sacrement, quand nous sommes rassemblés ici pour la messe, c'est ce qu'il y a de plus haut. Et c'est normal que la source corresponde au sommet. Une source, eh bien, va toujours être dans les montagnes, pourrions-nous dire, si on prend un exemple un petit peu qui va se limiter à cela. Elle vient en haut pour pouvoir descendre jusqu'à nous. Eh bien, cette source va être pour nous sommée. Et nous devons gravir progressivement tout au long de notre vie cette montagne pour pouvoir atteindre le Christ lui-même qui se donne à nous. Nous devons gravir la montagne que représente la messe elle-même. La messe, c'est le calvaire. Est-ce que nous restons en bas du calvaire, dans le cénacle, portant porte fermée, cachée, comme les apôtres au moment de la crucifixion, ou est-ce que nous avons le courage de gravir avec Saint Jean, l'apôtre par excellence, celui qui est né, avec la Sainte Vierge, eh bien, cette petite montagne du calvaire pour pouvoir être au sommet avec le Christ et donc recevoir de lui l'eau et le sang qui coulent de son cœur percé. Nous devons comprendre que ici se joue l'acte le plus important et que chacun des baptisés vit et doit vivre pleinement sa messe pour pouvoir retirer de cet acte qu'il va poser par l'intermédiaire du prêtre, et il est en union avec le prêtre qui opère le sacrifice, et bien il va poser, il va faire partie de cet acte, à sa manière, et bien l'acte le plus haut que l'Église pose. La louange de Dieu, le sacrifice lui-même que l'Église offre par le Christ à Dieu le Père, et bien nous voulons nous y associer du plus profond de notre cœur. Et pour que ce sacrifice ait lieu, il faut la présence réelle. S'il n'y a pas de présence réelle, il n'y a pas de sacrifice. Ce que n'ont pas compris certains. C'est pour ça que le prêtre opère la présence réelle du corps, c'est qu'ensuite il réalise la présence réelle du sang du Christ, et au moment où ces deux présences sont réalisées, séparées, alors le Christ se trouve en état d'immolation sacramentelle, le corps d'un côté, le sang de l'autre, et réaliser véritablement le sacrifice du Christ, et représenter le sacrifice du Christ. Essayons, mes bien chers amis, de hisser nos esprits jusque-là. Et ne doutons pas que cette présence réelle, si nécessaire au sacrifice voulu par le Christ, puisque c'est lui-même qui le réalise au moment de la Sainte Cène, ceci est mon corps, ceci est mon sang, en anticipation du sacrifice de la croix qui doit avoir lieu la journée suivante, eh bien, ne doutons pas que cette présence va rester dans nos tabernacles, et que nous sommes attendus par Jésus, pour prier devant le Saint-Sacrement. Il ne faut jamais négliger dans nos vies cette dévotion à la Sainte Eucharistie. On peut prier dans sa chambre, on peut prier partout, grâce à Dieu. Et notre Seigneur le dit à la Samaritaine, désormais ce n'est plus seulement à Jérusalem que l'on va prier, c'est absolument en tout lieu. Parce que le Père réclame des adorateurs en esprit et en vérité. Nous ne sommes plus limités par le lieu. Il n'empêche que le Christ se rendant véritablement présent dans l'Eucharistie, plus nous nous rapprochons du tabernacle, et bien plus nous allons recevoir de Jésus. Il y a une dévotion particulière à cette Eucharistie. Ce vrai pain de vie, celui qui est dans le tabernacle, c'est véritablement Jésus. Et nous devons faire à son égard, et je m'arrêterai là, des actes de foi, des actes d'espérance et des actes de charité. Vous allez me dire, mais c'est toujours la même chose. Mais oui, c'est toujours la même chose. Mais parce que notre union avec la vie de Dieu, c'est toujours une union dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Quand nous sommes devant le tabernacle, nous devons dire au bon Dieu que nous croyons qu'il est véritablement ici, que nous espérons véritablement qu'il va nous donner sa grâce, parce que s'il se rend présent dans l'Eucharistie, ce n'est pas pour faire joli dans le monde, ce n'est pas juste pour être là, mais c'est pour opérer une présence active, à savoir nous donner sa grâce, être un gage de salut pour nous. Et également, nous devons poser des actes de charité en disant, mais mon Dieu, combien je vous aime, vous qui voulez bien vous mettre, réaliser cette présence extraordinaire dans ce qui était du pain. Le pain, c'est la nourriture par excellence, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais comme vous le savez, il n'y a rien de plus banal que du pain. Ce qui est banal est pourtant absolument nécessaire à l'existence, c'est la nourriture de base. Il n'en reste pas moins vrai que qu'est-ce que du pain. Et pourtant le Christ a voulu transformer toute cette substance pour dire, voilà, je suis une nourriture, viens à moi. C'est une nourriture qui nous appelle. D'habitude c'est nous qui appelons plutôt la nourriture à nous. Eh bien là c'est le Christ qui nous appelle véritablement pour que nous osions aller à lui. parce que sans lui, nous ne pourrons pas aller au ciel. Alors, aimons véritablement le Christ comme tous les saints l'ont fait. Il n'y a aucun saint qui n'ait pas eu une certaine dévotion eucharistique, qui n'ait pas aspiré, soupiré, qui ait eu soif de l'Eucharistie. Sans elle, eh bien, nous dépérissons. Alors, essayons, mes bien chers amis, de tout notre cœur, de faire, au moins aujourd'hui, une bonne communion. En préparant notre cœur, en étant en état de grâce, évidemment, mais en développant un acte de charité surnaturelle pour que cette communion soit profitable. Si nous n'avons pas un degré de charité supérieur, eh bien, à ce que nous vivons habituellement, avant d'aller communier, le communion va juste nous maintenir à flot. Mais le Christ veut beaucoup plus pour nous. Alors que si nous développons un acte de charité immense au moment de communier, eh bien, la grâce qui va nous être donnée va être à mesure de notre charité. Et donc Dieu va pouvoir se donner beaucoup plus à nous. Et alors le communion ne sera pas ce petit rite que nous faisons tous les dimanches, mais véritablement un acte extraordinaire qui nous aura, encore une fois, rapprochés de Dieu. Parce que plus le Christ se donne à nous, plus il nous rapproche, plus nous avons gravi un échelon dans le sommet qui est le Christ lui-même, plus nous nous rapprochons de la source, plus nous aimons Dieu, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.